Après un mois d'absence, je suis de retour parmi vous. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment l'inflation nous assomme en France. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner. 1, 2, 3, c'est parti!
Bonjour, bienvenue dans cette chronique économique mensuelle que je vais animer toute cette année sur Blast. Mon but sera simplement de vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons. Pour cette première émission de comprendre l'économie, j'ai choisi de vous parler de l'inflation.
Nous sommes dans un pic d'inflation. Le plus dur, nous y sommes.
Nous sommes désormais au cœur du pic inflationniste.
Nous sommes maintenant au cœur du pic inflationniste.
Et nous sommes au pic de l'inflation.
On serait plutôt sur une forme de plateau haut qu'un pic, si vous préférez.
Et ce pic inflationniste, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, durera encore quelques mois.
On va avoir un pic au début de l'année.
On n'est sans doute pas encore au pic de cette inflation et le premier semestre va encore nous mettre sous pression.
L'inflation, c'est bien sûr la hausse des prix. Ça va peut-être vous étonner, mais en économie, il n'y a pas de seuil à partir duquel la hausse des prix est considérée comme un problème. Si votre baguette de pain coûte aujourd'hui 1 euro, mais que son prix passe à 1 euro et 1 centime dans un an, vous n'allez pas hurler à l'inflation. Mais lorsque les prix de l'alimentation augmentent de 20%, voire plus, comme ces deux dernières années, tout le monde parle d'inflation, évidemment. Derrière l'inflation, comme dans tous les mécanismes économiques, il y a des êtres humains. Les prix ne montent pas tout seuls. Et ça, c'est vraiment important. Des expressions comme « le prix de la viande a très fortement augmenté » ou « nous assistons à une explosion du prix de l'énergie » ne sont pas fausses, mais elles sont trompeuses. Ce qu'il faudrait dire, c'est « les éleveurs ont fortement augmenté le prix de leur viande » ou « EDF et Total Energy ont accru de 30% le prix de leur électricité ». Dire ça, ça change tout. Alors, qui peut augmenter son prix ? Pour un producteur, la question n'est pas seulement d'accroître son prix de vente. C'est de pouvoir continuer à vendre autant qu'avant, à ce nouveau prix plus élevé, et donc d'avoir des recettes totales plus élevées. Or, de ce point de vue-là, dans notre économie, dans notre société, nous ne sommes pas égaux. Certaines personnes peuvent augmenter leur prix de vente et continuer à vendre autant. Mais d'autres ne le peuvent pas. Il y a, dans l'économie, deux grandes catégories d'acteurs. D'un côté, ceux que les économistes appellent les faiseurs de prix, une mauvaise traduction de l'anglais, langue de la science économique, où on parle de price makers. Les faiseurs de prix, c'est avant tout les entreprises. Et de l'autre côté, il y a les losers, les preneurs de prix, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas en mesure d'accroître le prix de ce qu'elles vendent ou de baisser le prix de ce qu'ils achètent. Nous, les consommateurs, nous sommes la plupart du temps des preneurs de prix. Quand je vais au supermarché, je ne peux pas marchander pour payer mes tomates moins chères. Il y a bien sûr des exceptions. Par exemple, si je vais le samedi matin sur le marché, on peut discuter un peu, marchander, etc. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la plupart des salariés sont aussi des preneurs de prix. Car le salaire, oui, est un prix. C'est le prix du travail. Pour un économiste, ne pas pouvoir obtenir un salaire plus élevé, c'est ne pas pouvoir accroître le prix de vente de son travail et continuer à vendre son travail, c'est-à-dire être embauché par une entreprise. Mais qui, alors, dans l'économie, fixe les prix ? Eh bien, ce sont tout simplement les entreprises. Ce sont les entreprises qui décident du prix de vente de leurs produits, du prix auquel elles achètent les choses et donc, on l'a dit, du salaire qu'elles versent à leurs employés. Et qui, plus précisément encore, peut vendre plus cher sans perdre de clients. Ce n'est pas du tout le cas de toutes les entreprises, très loin de là. Ce n'est en fait le cas que d'un petit nombre d'entreprises, mais qui sont les plus grandes, les plus importantes dans l'économie. On peut citer par exemple les entreprises en situation de monopole, qui vendent un produit considéré comme unique par leurs clients. Ça a longtemps été le cas d'Apple. Même à ces prix exorbitants, il y avait des files d'attente de dingue lors de la sortie de chaque nouveau smartphone devant les Apple Store. Un autre exemple, ce sont les entreprises qui vendent quelque chose dont il est très difficile de se passer, comme on le voit en ce moment l'essence pour les automobilistes. Même lorsque le prix de l'essence augmente beaucoup, la consommation d'essence diminue certes, mais en fait très peu, parce que les personnes ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, pour aller voir leurs amis, pour vivre tout simplement.
Quand on passe un peu de temps de 1,30€ le litre à 2,20€, puis ça redescend à 1,80€, vous imaginez bien que justement cette différence, ben, il faut la remplacer par quelque chose, donc le travail. Donc on sort plus tôt le matin et on rentre plus tard le soir.
Il y a donc, dans notre économie, dans notre pays, des entreprises qui vont bien, pour plein de raisons différentes. Parce qu'elles ont une excellente image de marque, comme par exemple Decathlon. Ou parce que nous avons pris l'habitude d'acheter leurs produits sans même regarder la concurrence, comme le Coca-Cola ou le Nutella. Ou encore parce qu'elles vendent un truc nécessaire, comme l'électricité, pour EDF. Dans tous ces cas, on dit que ces entreprises ont un pouvoir de marché. La définition exacte du pouvoir de marché, c'est la possibilité d'accroître le prix de ce que vous vendez sans perdre de clients ou le moins possible. Une dernière définition, la marge. Si un boulanger vend sa baguette 1 euro et qu'une fois qu'il a tout payé, son énergie, sa farine, ses salariés, son loyer, il lui reste 10 centimes, alors on dit que sa marge est de 10%. Les marges varient énormément d'une entreprise à l'autre et surtout d'un secteur d'activité à un autre. Les cas où les marges sont les plus élevées, c'est les sacs Vuitton, les séries limitées Nike, etc. Mais les grandes marges ne se limitent pas au luxe, loin de là. Une étude récente a montré qu'elles étaient aussi très élevées dans l'industrie agroalimentaire. Supposons que les coûts de production des entreprises augmentent, comme cela se passe depuis 2 ans, avec la guerre en Ukraine, la hausse du prix de l'électricité, du gaz, des céréales. Toute la question, c'est de savoir ce que vont faire les entreprises. Si elles augmentent leur prix de vente, mais moins que leurs coûts de production n'ont augmenté, alors leur marge diminue. Elles gagnent moins d'argent. À l'inverse, si une entreprise augmente son prix de vente plus que ses coûts de production n'ont augmenté, alors elle accroît sa marge. Normalement, la pression de la concurrence force les entreprises à baisser leur marge pour éviter de perdre des clients en augmentant trop leur prix de vente. C'est l'idée, plutôt juste, selon laquelle la concurrence fait baisser les prix ou, plus exactement dans le cas présent, limite leur hausse. Mais ces derniers mois, énorme surprise chez les économistes. Non seulement, avec la crise, les marges n'ont pas diminué, elles ont même augmenté. Et donc, dans l'agroalimentaire, les gentilles marques aux belles publicités ont accru leur prix de vente de 10% de plus que leur coût de production. Par ici, les juteux profits.
Erta, le goût des choses simples.
Mais pourquoi ont-elles pu le faire? C'est assez étonnant, finalement. Au supermarché, nous sommes face à une grande variété de produits. On peut choisir entre des dizaines de boîtes de conserve, de surgelés, de yaourts, de tout ce qu'on veut. Évidemment, ce choix est plus ou moins étendu, selon ses revenus, selon l'endroit où on fait ses courses, selon ce qu'on aime ou pas, etc. Honnêtement, dans notre pays riche, il nous est assez facile, la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, de ne pas acheter tel ou tel produit spécifique. Nous sommes donc ici face à un petit mystère. Comment concrètement les producteurs peuvent-ils accroître leur prix et que nous continuions à leur acheter leur bidule alors que nous pourrions très bien acheter d'autres choses moins chères ou ne rien acheter du tout?
C'est simple.
C'est parce qu'en réalité, de nombreuses marques appartiennent au même groupe, à la même entreprise. Ainsi, loin des discours sur l'économie de marché, la réalité du capitalisme, c'est celle de la concentration du pouvoir économique, qui est d'ailleurs un sujet d'inquiétude majeure pour les autorités en charge de la concurrence, en Europe comme aux États-Unis. Ceci dit, ce pouvoir de marché des entreprises a ses limites. On a vu, fait sans précédent, que la consommation alimentaire avait diminué en France ces derniers mois.
D'abord, je vais lui dire ça. Je vais dire que c'est un tsunami de consommation pour les Français.
De déconsommation.
Et que quand on est quand l'essentiel n'est plus accessible, quand on se prive de produits essentiels, il faut agir vite.
Derrière l'inflation, il y a donc de grands pouvoirs privés, ceux des très grandes entreprises. Logiquement, la solution à l'inflation est alors de réduire ces pouvoirs. Plusieurs pistes sont possibles. Pour les économistes universitaires, le meilleur moyen, c'est d'accroître la concurrence. C'est pas absurde. Même une marque ultra dominante comme Tesla, le producteur américain de voitures électriques, a récemment baissé le prix de vente de ses véhicules à cause de la concurrence chinoise. Mais la concurrence, elle ne produit ses effets qu'à long terme. Et si elle les produit, ils ne sont de toute façon que limités. Et surtout, comment créer cette concurrence? Les États ne peuvent pas inventer des entreprises qui n'existent pas. Il y a donc d'autres solutions à la disposition des États. La plus simple, c'est de bloquer les prix. C'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement avec le bouclier énergétique. Même Édouard Balladur, qui fut l'auteur en 1986 de la libéralisation totale des prix lorsqu'il était ministre de l'économie et des privatisations sous Jacques Chirac, reconnaissait que l'État pouvait plafonner les prix en cas de crise ou de dérèglement brutal du marché, s'accompagnant de hausses excessives de prix, ce qui est exactement la situation actuelle.
On va doubler le nombre de produits sur lesquels il n'y aura pas de hausse de prix ou il y aura une baisse des prix. Ça fait 5000 produits au total, 5000 références.
Quand vous dites sur lequel, c'est les enseignes qui vont le faire.
C'est les industriels, c'est les distributeurs. Ils s'engagent sur 5000 références qui seront contrôlées par la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, bien sûr. Il y aura des contrôles sur les engagements qui sont pris par distributeurs industriels. 5000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse.
Mais attention, le blocage des prix peut fonctionner. Mais il ne peut fonctionner que si les entreprises réalisent des marges suffisantes. Imaginons que vous êtes le ministre des Finances et que je sois boulanger. Vous me dites, Gilles, maintenant, le prix de la baguette, c'est 80 centimes et pas plus. Si cette baguette, elle me coûte 90 centimes à produire, qu'est-ce que je vais faire? Ben rien. Je vais dormir. J'ai plus travaillé, ne plus produire, parce que produire des baguettes me ferait perdre de l'argent. Et vous, dans une économie de marché, cher ministre, vous ne pouvez pas me forcer à produire. Votre politique aura donc échoué et en plus, les consommateurs privés de ma délicieuse baguette vous en voudront.
Achète-moi une baguette, elle est bien cuite. La farine et l'eau, ce n'est pas gratuit.
Heureusement, il y a de vraies solutions. Comme renationaliser les grandes entreprises, c'est ce que prévoyait le Conseil national de la Résistance en 1944, qui, dans les termes de l'époque, souhaitait, je cite, « l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie ». Plus précisément, le CNR demandait le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, notamment les sources d'énergie, les richesses du sous-sol, les compagnies d'assurance et les grandes banques, ce qui fut largement fait en 1945. Or, la transition écologique n'aura pas lieu tant que Total Energy demeurera une entreprise privée, tant que les banques, les assurances pourront investir dans ce qu'elles voudront, tant que la SNCF ne sera pas redevenue un vrai service public, au prix bas, stable, fixe, au réseau étendu, dans les lignes secondaires, les lignes de nuit, afin de nous faire enfin réellement préférer le train et pas l'avion. Si nous avions de nouveau de vrais services publics, même si le prix de l'électricité ou du billet SNCF devait augmenter à l'avenir, par exemple parce qu'il faut construire de nouvelles centrales nucléaires ou parce qu'il faut construire de nouvelles lignes de chemin de fer, cette hausse des prix pourrait être discutée publiquement. Elle pourrait avoir lieu de manière graduelle. Ce seraient deux nettes améliorations par rapport à la situation actuelle. En fait, ce que l'inflation actuelle met en lumière, c'est le pouvoir trop important de certaines très grandes entreprises. Et, à l'inverse, le pouvoir de négociation trop faible ou même inexistant de la plupart des salariés qui les empêchent de maintenir leur niveau de vie, avec pour résultat, on le voit ces jours-ci, une forte hausse de la pauvreté. Dans ces deux cas, excès de pouvoir des très grandes entreprises, pouvoir insuffisant des salariés, seul l'État peut agir. Et il le doit, car s'il ne le fait pas, le ressentiment devant tant d'injustices aura de terribles conséquences politiques.
La situation est si préoccupante pour le patron du Système U qu'il s'est fendu d'un tweet cette semaine. La consommation alimentaire en France revient à ses niveaux d'avant 2000 du fait de l'inflation. Elle a résisté aux précédentes crises, mais cette fois, elle craque, dit-il, et ce sera le sujet des mois qui viennent.
Si vous avez apprécié cette vidéo, comme je l'espère, pensez à mettre un pouce bleu et, pour celles et pour ceux qui le peuvent, à financer Blast en faisant un don ou en vous abonnant, car sans vous, ce média ne peut pas exister. Et pour celles et ceux que ça intéresse, vous pourrez me retrouver aussi sur Twitch une fois par mois. On reviendra sur ma chronique et je répondrai à vos questions. Par exemple, ce mois-ci, on pourra réfléchir à la question de savoir pourquoi l'indice des prix sous-estime la réelle inflation. On pourrait aussi discuter des origines historiques et intellectuelles de la réelle terreur que la moindre inflation crée chez tant d'économistes. Enfin, on pourra aussi discuter, par exemple, de la possibilité d'indexer les salaires sur les prix, est-ce une bonne idée ou pas? Et surtout, je serai disponible pour répondre aux questions que vous vous posez. C'est simple, l'économie. Bien comprendre comment ça marche vous permettra de faire taire votre oncle de droite ou d'extrême droite à Noël, de rassurer votre cousine complotiste et peut-être même de tenir un peu mieux tête à votre patron. On se retrouve, si vous le souhaitez, le mois prochain pour parler d'un autre sujet hyper rigolo, la dette publique. À bientôt sur Blast. Thank you.